Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous débattrons de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. C'était une promesse électorale du président Tshisekedi, pacifier l'est du pays. Pourtant, les violences se poursuivent. On assiste même à une détérioration de la situation. Du coup, les gouverneurs des provinces concernées demandent l'aide du gouvernement et plusieurs mouvements citoyens ont notamment lancé une pétition pour rappeler au chef de l'État son engagement. Alors, pourquoi est-il si compliqué de restaurer la paix? Vos témoignages, évidemment, nous intéressent. J'aimerais également vous entendre ce matin sur le coup de gueule de la chef de la MONUSCO, la mission des Nations Unies en RDC. Hier, Leila Zerougui a dénoncé les accords conclus entre le gouvernement et les groupes armés, des accords prévoyant une amnistie pour tous ceux qui déposent les armes. Elle a dit « Cela fait 20 ans que ces gens survivent ». Car ils sont récompensés. On ne doit pas amnistier. On en parle évidemment tout à l'heure. 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Des questions, tiens, pour commencer sur le feuilleton de l'été du football ivoirien. Clarence, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
Vous êtes à Bamako et vous avez une lourde responsabilité ce matin, Clarence. Vous êtes le porte-parole de nombreux auditeurs qui nous ont appelés ces derniers jours pour poser exactement les mêmes questions concernant l'élection du futur président de la Fédération Ivoirienne de Football.
Oui. Voilà. En fait, il y a un moment que le processus électoral à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football a été déclenché. Mais en même temps, la candidature de Drogba avait été rejetée. Voilà. Et la FIFA, dans la foulée, s'est saisie du processus et a donc demandé son arrêt jusqu'à nouvel ordre. Et a ensuite décidé d'écouter tous les acteurs qui y sont impliqués.
Oui.
Alors, je voudrais comprendre. Et d'abord, pourquoi la candidature de Drogba a été rejetée après avoir été validée le 9 août dernier.
Effectivement. On va essayer de comprendre ce coup de théâtre avec Christophe Jousset du service des sports de RFI. Bonjour Christophe.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. Effectivement, Clarence a raison, comme tous les auditeurs qui nous contactent depuis quelques jours. Ils veulent comprendre comment se fait-il qu'au début du mois dernier, la commission électorale valide la candidature de Drogba et qu'à la fin du mois, il y a quelques jours, elle la rejette.
Alors, c'est une affaire qui n'est pas simple et pour l'expliquer, le plus simple, c'est de la reprendre dans la chronologie. On est début août, effectivement, quand la commission électorale se réunit pour examiner les dossiers des quatre hommes qui prétendent être président, le prochain président de la FIF, à savoir Sori Diabaté, Idriss Diallo, Kouadio, Kofi Paul et Didier Drogba. Déjà, les débats sont animés et parce qu'il y a en cause, notamment, la validité des parrainages qui sont présentés par les candidats, comme on l'a expliqué déjà plusieurs fois sur cette antenne. Il faut pour chaque candidat être parrainé par des clubs ou des groupements et des groupements d'intérêt que sont les joueurs, les arbitres, les médecins. C'est indispensable. Or, il y a des doublons. C'est-à-dire que certains clubs, par exemple, ont apporté leur soutien à plus d'un candidat, ce qui pose question.
Évidemment.
La commission électorale, qui est présidée par l'ancien ministre des Sports, René Diby, débat donc, la discussion dure longtemps. Il y aurait eu une première position qui était de ne valider que deux candidats sur les quatre. Drogba était hors course.
Oui.
Puis une autre décision, René Diby plaidant pour un élargissement des validations en invoquant les impératifs de cohésion sociale. Drogba était alors qualifié. Et l'entourage de l'ancien capitaine des éléphants, d'ailleurs, à ce moment-là, s'est réjoui sur les réseaux sociaux. On pense notamment à l'ancien gardien Copa Barry. Le problème, c'est que cette décision aurait dû être communiquée rapidement à la presse. C'est ce qui devait se passer en principe. Mais le secrétaire de la commission électorale, Sam Etiassé, estimait que la décision était contraire au texte. Il a refusé de la signer, alors que sa signature était obligatoire pour que la procédure se poursuive avec les notifications, le communiqué de presse. Donc, en fait, quand notre auditeur Clarence part du principe que le 9 août la
candidature était validée,
c'est pas si simple.
Voilà, c'est ça.
Et ensuite, la commission électorale se réunit de nouveau à la fin du mois d'août. J'accélère un peu parce qu'il y a eu tellement de péripéties.
De rebondissements.
Elle reprend l'examen des dossiers. De nouveau, ça ne se passe pas bien. Le président de la commission René Diby quitte la salle. Il claque la porte.
Il démissionne ou pas?
Alors, C'est la question. Ah. A-t-il formellement démissionné? C'est l'un des points qui oppose les deux camps, qui sont d'accord, en désaccord sur beaucoup de points cruciaux, les parrainages, la démission ou pas. Toujours est-il qu'en son absence, un nouveau président a pris la direction des débats et que la commission a conclu le 26 août en rejetant la candidature de Drogba au motif que certains de ses parrainages n'étaient pas valables. Et la décision a largement circulé dans les médias.
D'autres questions, Clarence?
Oui, voilà. Et entre-temps, la FIFA s'était immiscée dans le dossier et a demandé son arrêt. Donc moi, je voulais comprendre pourquoi cette position de la FIFA.
Oui. J'ai sous les yeux un extrait de la lettre de la FIFA adressée au directeur exécutif de la Fédération Ivoirienne de Football. « Nous vous invitons à suspendre toute action relative au processus électoral jusqu'à nouvel ordre. » Comment peut-on expliquer cette attitude de la Fédération Internationale de Football?
L'intervention de la FIFA, en fait, on entend dans cette affaire qui a aussi une dimension politique, on entend les anti-Drogba dire si la FIFA intervient, c'est parce qu'il y a un lien de proximité entre Drogba et le président Infantino. Ce qui est sûr, c'est que dans un courrier du 21 août, la FIFA indique qu'elle répond aux sollicitations de Sam Etiassé en tant que directeur exécutif de la FIFA. Elle répond. Donc, elle ne se serait pas auto-saisie de l'affaire. Et puis, sur RFI, Eugène Diomandé, qui est le coordinateur de la campagne de Didier Drogba, a expliqué un peu plus tard qu'il comptait interpeller la FIFA. Vous voyez, donc, on ne sait pas bien d'où vient l'initiative, finalement. Et puis, il y a eu un deuxième courrier signé par la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura. Cette lettre-là est envoyée au lendemain de la décision qui exclut Drogba de la course à la présidence. La FIFA s'interroge sur les conditions dans lesquelles la commission électorale a pris cette décision. Elle évoque de possibles interférences de tiers, des doutes sur l'indépendance, la quiétude des débats. Et surtout, la FIFA demande aux dirigeants ivoiriens de lui fournir des documents. Une demande qui s'est doublée, alors là c'est beaucoup plus récent, ce mardi 1er septembre, d'une autre nouvelle. La FIFA a décidé de créer une mission conjointe avec la CAF. Elle veut entendre individuellement et à distance les acteurs du processus électoral. Alors elle donne la liste en commençant par, je cite, le président de la commission électorale, René Diby. Et puis il y a aussi dans la liste le vice-président, Ernest Kouassi Konan, qui est l'homme qui a signé la décision écartant Drogba. Concerné également Sam Etiassé, dont on parlait tout à l'heure, et ou encore l'actuel président de la FIFA, Sidi Diallo. On en est là, alors que la date prévue pour l'élection...
Bah, c'est samedi prochain, ouais. Théoriquement, hein, sur le papier, c'était prévu le 5 septembre.
Voilà, on ne voit pas comment on pourrait tenir cette date. L'incertitude demeure et sur l'issue de cette campagne, qui en tout cas passionne en Côte d'Ivoire. Alors, au-delà des frontières ivoiriennes, parce qu'il y a au centre, effectivement, une icône au centre de l'histoire, une icône du foot mondial.
Et mon petit doigt me dit qu'on en parlera demain avec de nombreux auditeurs dans la Libre Antenne d'Appel sur l'actualité. Clarence, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, j'ai eu satisfaction. Mais j'ai eu une dernière question, je ne sais pas.
Allez-y, profitez-en. Allez-y.
Ouais, voilà. Donc maintenant, quelle est la position de la CAF vis-à-vis de cette décision de la FIFA?
La Confédération africaine de football s'est-elle exprimée, Christophe Jousset?
Je n'ai pas vu de déclaration, de communiqué de la CAF à ce sujet. Elle est dans l'histoire, puisque, on vient de le dire, d'abord il y a eu un émissaire de la CAF qui était présent au débat, et puis elle fait partie, elle est en mission conjointe avec la FIFA pour obtenir des éclaircissements sur la façon dont ce processus électoral s'est déroulé jusqu'à présent.
Merci Christophe Jousset du service des sports. Clarence, bonne journée à Bamako où il est 8h et bientôt 20 minutes. 33 9 693 693 70. D'autres questions évidemment ce matin à la rédaction de RFI. Jean-Baptiste, soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à la RFI, l'Afrique et à la RDC.
Merci, vous êtes à Kisangani, nous vous écoutons, quelles sont vos questions?
Effectivement, le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel congolais, plaide pour l'installation d'un tribunal spécial international pour juger les crimes commis en République démocratique du Congo depuis 1996. Oui. Alors, je voudrais savoir, Juan, comment a réagi le président congolais, le président Félix Tshisekedi, et est-ce que la création de ce tribunal spécial est-elle envisageable?
Oui, le plaidoyer du prix Nobel de la paix en faveur d'un tribunal pénal international pour juger les crimes les plus graves commis dans son pays contre la population. Bonjour Sonia Rollet.
Bonjour.
Journaliste au service Afrique de RFI, Jean-Baptiste le disait à l'instant, le docteur Mukwege plaide pour la fin de l'impunité dans son pays. Il réclame la création d'un tribunal international. Le président Tshisekedi s'est-il exprimé à ce sujet ?
Alors, le président Tshisekedi, en fait, au début du mois d'août, a évoqué en Conseil des ministres, et c'est ce qu'on a pu voir dans le compte-rendu, l'idée de la mise en place d'une forme ou d'un mécanisme de justice transitionnelle. Et à l'époque, il se plaignait en fait que le gouvernement ou les commissions au sein du gouvernement n'aient pas avancé sur ce projet. Alors depuis, ce projet a avancé. Il y a eu donc des rencontres entre de différentes commissions interministérielles et ce projet devrait être mis sur la table, peut-être pas à ce Conseil des ministres, mais au prochain Conseil des ministres. Et ce sera un projet en fait autour, non pas d'un tribunal pénal international pour le Congo, parce que ça, il faudrait que ce soit une décision internationale.
Du Conseil de sécurité de l'ONU, en l'occurrence.
Du Conseil de sécurité de l'ONU, exactement, comme ça a pu être le cas, par exemple, pour le Rwanda ou l'ex-Yougoslavie. Et notamment, si on prenait l'option d'un tribunal pénal international, ce serait bien sûr parce que la CPI ne peut pas juger ces crimes, puisque la CPI n'était pas en place à ce moment-là. Donc, le projet du gouvernement congolais, enfin qui va être soumis en Conseil des ministres, à voir si ce sera adopté, ce serait l'idée d'une commission de justice transitionnelle et de réconciliation, et la mise en place d'un fonds donc pour les victimes des crimes les plus graves. Donc c'est un projet qui tourne plus sur le principe de vérité et réconciliation qu'une véritable cour de justice. Il y avait plusieurs options hein, d'ailleurs qui étaient sur la table, puisqu'on se souvient que le Mapping Report, donc le rapport de l'ONU qui avait documenté les crimes les plus graves entre 93 et 2003, 617 crimes contre l'humanité, crimes de guerre quand même, avait par exemple proposé la mise en place de chambres mixtes, oui. C'est-à-dire d'une justice qui soit à la fois congolaise, mais avec une partie internationale. Bon, ben, a priori, en tout cas, pour le moment, ce n'est pas l'option qui est sur la table, puisque là, on est vraiment sur une commission qui sera plutôt gouvernementale ou avec beaucoup de délégués du gouvernement, quelques délégués de la société civile, et qui est censée faire le tour de la RDC pour établir les faits de ce qui s'est passé pendant les deux guerres du Congo.
Donc une commission de justice transitionnelle plutôt qu'un tribunal pénal international, ça donnera l'occasion évidemment dans quelques jours d'en débattre avec les auditeurs. Jean-Baptiste, vous avez une autre question?
Oui, une autre question. Que font les autorités politico-administratives du pays pour assurer la sécurité de ces gynécologues réparateurs de femmes dont les dignes Mukwege face à cette situation de menace actuellement?
Oui, c'est vrai que le docteur Mukwege est menacé de mort, notamment depuis son plaidoyer pour la création du tribunal pénal international et surtout depuis un tweet fin juillet dénonçant les massacres dans le sud Kivu. Sonia Rollet, les autorités prennent très au sérieux ces menaces de mort.
Alors oui, en tout cas là, il y a eu des déclarations en ce sens et notamment le président Tshisekedi, toujours en Conseil des ministres, avait demandé à ce que tout soit fait pour que la sécurité du docteur Mukwege soit assurée. Puis on a vu beaucoup, enfin une grande mobilisation internationale avec la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme aussi qui a condamné ces menaces et qui a appelé à la sécurisation en fait du docteur Mukwege. Mais d'après ce que nous a dit l'équipe du docteur hier, pour l'instant, ils n'ont rien vu venir en ce sens, ni du gouvernement d'ailleurs, ni de l'ONU. Le dossier est aussi sur la table de l'ONU, c'est ce que disait le patron du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme au Parlement européen, puisqu'il y a eu des questions en ce sens de députés, c'était en début de semaine, et il disait que, en tout cas, lui, il avait fait son rapport, il avait documenté ses menaces, et il les avait transmis à qui de droit, à savoir le secrétaire général de l'ONU, et également sa patronne, donc la haute commissaire. Mais c'est vrai que le docteur Mukwege avait, par exemple, pendant très longtemps, en fait, une protection des Nations Unies, qui a été enlevée à la faveur du Covid, mais c'est notamment parce que certains des casques bleus avaient eu le Covid et n'a pas été réinstallé depuis. Mmh. Donc c'est un peu ça que on en est un peu là pour le moment. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce matin, il y avait une manifestation notamment des survivantes des violences sexuelles, de l'association des survivantes des violences sexuelles. Pour demander à ce que le docteur Mukwege soit protégé.
Voilà, en tout cas l'ONU réclame une enquête, vous le disiez, pour trouver ceux qui se cachent derrière ces menaces de mort. On rappelle tout de même que ce n'est pas la première fois que le prix Nobel de la paix est menacé de mort. On se souvient qu'en 2012, il a survécu à une tentative d'assassinat et il avait fallu que les autorités et que la mission des Nations Unies, surtout en RDC, l'exfiltre du pays. On aura l'occasion tout à l'heure, justement, Sonia Rollet, de parler de cette actualité avec les auditeurs de RFI, puisqu'on parlera de l'insécurité dans l'est du pays et de ce qu'il manque finalement pour restaurer définitivement la paix. Jean-Baptiste, je vous souhaite une bonne journée à Kisangani. Merci Sonia Rollet. On continue, tiens, à parler de la République démocratique du Congo. Trésor, bonjour.
Bonjour, monsieur Juan Gomez.
Vous êtes à Kisangani. On vous a eu hier quelques instants à l'antenne des RFI. On vous a raconté un peu les coulisses depuis le début de la semaine, quasiment tous les jours. Car, voilà, on vous prévoit, vous avez des questions à poser. Malheureusement, on n'arrive pas à établir une liaison téléphonique suffisamment correcte avec notre correspondant. Cette fois-ci, ça marche, ça fonctionne. Patient Ligodi, bonjour.
Bonjour, Juan. Bonjour, Trésor, et bonjour, Kisangani.
Je croise les doigts pour que le réseau téléphone tienne jusqu'au bout. Vous êtes le correspondant de RFI à Kinshasa. Trésor a des questions à vous poser concernant le projet d'instaurer des réformes électorales. Trésor.
Effectivement, monsieur Gomez. En RDC, où les acteurs politiques et la société civile sont d'accord sur la nécessité d'organiser des réformes de la loi électorale. De quelles réformes est-il question ? Qui changera-t-elle concrètement ?
Ah, c'est vrai qu'en RDC, tout le monde, pouvoir et opposition en tout cas, s'accorde sur l'importance de procéder à des réformes électorales. Patient Ligodi, concrètement, de quelles réformes parle-t-on ?
Vous l'avez dit, Juan, il faut dire que toutes les parties prenantes au processus électoral militent pour les réformes. C'est le cas du Front commun pour le Congo, le FCC de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, du CAP pour le changement CASH de Félix Tshisekedi, encore de l'ECID de l'ancien candidat à la présidentielle, Martin Fayulu. Même la société civile veut de changement et les divergences interviennent. Quand on parle de la nature de ces changements, et il faut également dire que d'autres divergences sont au niveau du cadre de ces discussions et plusieurs initiatives sont en cours. Il y a d'abord ce groupe de 13 personnalités qu'on appelle le G13, parmi lesquelles les députés, les membres de la société civile. Elles proposent notamment la modification de la loi organique portant fonctionnement de la CENI et la révision de certains articles de la Constitution. Concrètement, ces personnalités souhaitent que le second tour de l'élection du président de la République soit rétabli. C'est une piste proposée également par Félix Tshisekedi et plusieurs acteurs de la société civile. Les propositions tournent aussi autour de la composition de l'organe de direction de la Commission électorale nationale indépendante et du mode de désignation de ses membres. Ouais. L'actuelle configuration est jugée très politique. Il y a plusieurs autres points, dont la question du seuil électoral tel qu'appliqué actuellement et qui défavorise surtout les candidats indépendants.
Bien, on aura là aussi l'occasion, c'est promis, d'en parler avec les auditeurs de RFI. Voilà un sujet qui les intéresse évidemment quand il s'agit de l'organisation et de la préparation des prochaines élections. Où en sont les discussions concernant ces réformes, Patient Ligodi ?
Oui, comme on l'a dit tantôt, plusieurs initiatives sont en cours, mais on enregistre qu'il y a très peu d'avancées. La famille politique de Joseph Kabila, qui est majoritaire dans quasiment toutes les chambres délibérantes, rejette toutes les négociations qui se dérouleraient loin du Parlement. Elle a également refusé de recevoir la délégation du G13, le groupe des 13 personnalités, on l'a dit. Elle a aussi refusé de participer au forum initié à Kinshasa par un centre de recherche de l'Université de Liège. Le CASH de Félix Tshisekedi a aussi boycotté ses assises. Les travaux du dit forum sont d'ailleurs suspendus. Et pour sa part, la société civile annonce l'organisation mi-septembre de son propre forum sur les réformes électorales. Et de son côté, Martin Fayulu exige, lui, des élections anticipées qui seraient précédées des réformes et qui ne concerneraient pas que les processus électoraux, mais d'autres institutions aussi.
À suivre donc. Merci infiniment, Patient Ligodi. On a finalement réussi à vous répondre, Trésor.
Oui, effectivement, monsieur Gomez. Merci vraiment, Pascal Ligodi, et merci à toute l'équipe d'Affaires sur l'actualité.
Et merci à vous de votre fidélité. Bonne journée à Kisangani. 33 9 693 693 70. Le standard reste évidemment ouvert. On attend les questions pour préparer l'émission de demain matin. Forcément, on a besoin de connaître les questions avant le début de l'émission, hein, pour appeler nos correspondants, nos experts à travers le monde et ici même au sein de la rédaction. Le standard reste ouvert évidemment pour recueillir vos témoignages, vos analyses sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Rappelez-vous, c'était une promesse électorale du président Tshisekedi. La paix dans l'est, eh bien, les faits sont là. Les violences continuent. Et d'ailleurs, la situation s'est dégradée ces dernières semaines. On va évidemment en parler ensemble.